Last but not least, dans cette sélection finale du prix des auditeurs, le roman d'Olivier Sillig, qui a paru l'année passée aux éditions Encre Fraîche à Genève, un texte baptisé « Deux bons bougres ». Olivier Sillig, il nous avait déjà impressionné par ses textes précédents, que ça soit son récit de science-fiction, Bjord, qui est sorti en poche Gallimard, en 2000, ou alors son récit historique, La marche du loup, qui avait paru en 2003. Ici, il réédite avec bonheur dans cette alliance entre l'histoire et le roman. Mais un roman historique narré sous la forme d'un gigantesque conte. On n'est pas dans une fresque, bien au contraire, l'écriture nous confronte à l'expérience directe de ces personnages. Peu de commentaires, surtout une prédilection pour l'épopée immédiate. Le récit se déroule au XVIIIe siècle. Deux jeunes hommes vont se lier d'une amitié très forte. Elle deviendra de l'amour au fil de leur pérégrination. Un voyage qui commence d'abord près de Lausanne, où Nicolas, un fils de notaire, se fait violer par un brigand du Jorat qui deviendra son partenaire, son compagnon de route. Une rencontre violente sur fond de forêt obscure qu'Olivier Sillig décrit sans demi-mesure. Pourtant, les situations humaines les plus brutales débouchent parfois sur une complicité démesurée. Et c'est le cas de nos deux personnages qui vont sillonner d'abord le pays de Vaud pour ensuite être enrôlés dans l'armée des Habsbourg. Ils finiront en Amérique du Nord, où leur bateau échoue. C'est alors que ces deux mercenaires de l'Europe vont découvrir une civilisation supérieure parmi toutes et ils vont petit à petit prendre le parti des peaux rouges qu'ils découvrent. Récit d'initiation à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, l'imagination d'Olivier Sillig sert parfaitement l'impression de surprise permanente dans le livre. Preuve en est cet extrait qui nous transporte justement chez les Indiens. On écoute toujours la lecture de la comédienne Jocelyne Page.
Pour devenir guerrier ou guerrière, c'était le seul mot utilisé pour désigner les adultes, les adolescents étaient initiés plusieurs semaines durant à la douleur et à la souffrance, par l'homme sorcier. Une autre année, tour à tour, nous nous soumettrons aussi à cette initiation. Elle nous protégera, Martin et moi, quand nous serons livrés aux mains de la très sainte Inquisition. Cette initiation s'achevait par une cérémonie de combat où les garçons accédaient au statut de guerrier. Des combats qui n'étaient pas jugés nécessaires pour les jeunes femmes, puisque tôt ou tard, toutes se trouvaient soumises à un autre rite de reconnaissance naturel, lui, l'enfantement. À une date fixée par l'homme sorcier, à l'occasion d'une fête de plusieurs jours, les combats se déroulaient au centre du cercle de tous les Indiens. Nous étions parmi eux à cette occasion. C'étaient des luttes d'une très grande violence où les adolescents, au sortir de ces longues semaines d'initiation, se retrouvaient face à face, deux à deux, armés de coquillages acérés dont les bords aux découpes tranchantes infligeaient des blessures superficielles, mais qui pour tout autre auraient été insupportablement douloureuses. Il s'achevait dès qu'un des combattants déclarait forfait. C'étaient les femmes, puisque c'était elles que ces nouveaux guerriers auraient à protéger, qui jugeaient le combat. Une fois estimée la valeur des adversaires, le vainqueur et le vaincu, elle décidait si les deux adolescents étaient dignes d'être admis dans le groupe des hommes, le groupe des guerriers. De mémoire de combat, il n'y avait jamais eu d'accident grave. Il y en eut un, pourtant, cette fois. Un des coups glissa sur l'épaule. Le tranchant du coquillage sectionna la jugulaire. Avant que quiconque ne puisse intervenir, le jeune homme était mort. Les Caraïbes acceptaient la mort avec fatalité. Ils la considéraient aussi comme un rite de passage. Une cérémonie funèbre particulière, celle réservée aux guerriers morts glorieusement, fut organisée dans la nuit. Nous y fûmes associés. Elle commença par un repas sacré auquel les femmes et les enfants ne participaient exceptionnellement pas, mais y assistaient en spectateurs. Les hommes formaient un cercle autour d'un grand feu. Le sorcier servit chacun, nous posant sur la langue, presque comme des hosties coupées en très petits morceaux, d'abord des fruits et des légumes blancs, puis des abats et des entrailles de viande crue qui avaient la couleur et le goût de la viande de singe. Puis l'homme sorcier revint avec un plateau d'écorce sur laquelle il y avait la tête de la bête, ouverte, pour que nous partagions sa cervelle. Les six membres de notre tribu d'hommes blancs étions assis les uns à côté des autres. Déjà, en la mangeant, cette viande m'avait paru étrange. Mais nous étions sur l'île depuis relativement peu de temps et très soucieux de ne pas offenser nos hôtes. Malgré l'obscurité relative, mais bien avant les autres grâce à nos connaissances d'anatomie, Martin et moi avons immédiatement identifié ce crâne comme étant un crâne humain. C'était celui de l'adolescent aux funérailles duquel nous participions et dont nous avions déjà mangé certains organes. Cannibale. Olivier Sillig, deux bons bougres.